théologie scientifique, le Verbe incarné, le 1er novembre 84, Rimont.
Bonne fête de la Toussaint. Soyez tous des saints. Comme ça. C'est vrai, il faut demander au Seigneur aujourd'hui qu'il y ait parmi la communauté, dans la communauté des saints. On doit lui demander. Nous sommes tous des saints en herbe. Hein. Il faut que ça puisse fleurir. La dernière fois, je n'ai pas pu vous recommander ce livre. Je le laisserai du reste ici, à la bibliothèque, pour que, je ne crois pas que vous l'avez déjà, Bible et Christologie, Commission biblique pontificale. Donc, il y a un décret intéressant. Je crois que nous devons le lire. Port réfectoire, c'est un peu difficile, n'est-ce pas ? Mais on ne sait jamais, après tout. Un peu difficile pour le réfectoire. Et puis après, toute une série d'articles sur ces points de vue. C'est paru au CERF. Alors vous verrez. Ils mettent au point pas mal de choses sur la question actuelle. Donc c'est un bon fichier intelligent. Un bon fichier. C'est pas beaucoup plus, parce que de fait, c'est... Mais c'est bon pour avoir ce qui se dit actuellement, ce qui a été dit, et un peu ce que la commission biblique pontificale peut dire là-dessus. Et c'est assez symptomatique du reste, voyez. Ce n'est pas le point de vue du dogme, c'est le point de vue biblique. Donc c'est bien dans le sens où je vous disais de Pannenberg la dernière fois. Et c'est très fort dans ce sens-là. Alors, c'est intéressant, mais pour ce que nous faisons, n'a pas un intérêt immédiat. Hein. Donc, c'est bon de savoir que ça existe et qu'on peut s'y référer. Alors, nous allons, nous, entrer dans saint Thomas. Marche arrière. Mais pour mieux faire marche avant. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Parce que si on revient à saint Thomas, c'est pas pour le plaisir de revenir en arrière, mais ce qu'il semble bien qu'au point de vue théologie scientifique, on n'a pas dit quelque chose de mieux. Ce qui n'empêche pas qu'on doit compléter, comme je vous avais dit, compléter saint Thomas dans une perspective de théologie mystique, dans une perspective de théologie de l'économie divine. Et je dis bien compléter, parce que ce n'est pas du tout quelque chose d'extrinsèque, mais c'est un complément. Et dans la lumière, hein, je crois que c'est ça qui serait très intéressant à bien comprendre, que la théologie de l'économie divine ne peut pas se faire sans la théologie scientifique, comme une théologie biblique. Qui ça revient, c'est très proche, théologie de l'économie divine, théologie biblique, mais je crois que ça ne peut pas se faire sans une théologie proprement scientifique. Donc je vous avais placé dans l'ensemble de saint Thomas la tertia pars, je vous avais posé les quelques questions qui se posaient, c'est le père Moncheuil, n'est-ce pas, qui avait lui, s'était opposé violemment à cette position de saint Thomas, au début de la guerre, de la dernière, enseignant à l'Institut catholique, il avait dit « Je ne comprends pas qu'un traité de théologie chrétienne ne commence pas tout de suite par le traité du Christ. » Vous voyez, ça, c'est on pourrait répondre en théologie de l'économie divine, le sommet, c'est le Christ. On voit comment, progressivement, on aboutit à ça. En théologie scientifique, on est intelligent et on fait comme Dieu l'a fait. C'est-à-dire qu'on commence par le Dede Uno, puisque Dieu a commencé par un Dede Uno. Dieu a commencé par montrer l'unicité de Dieu, le monothéisme, de fait. Dieu a lutté, la révélation lutte contre le polythéisme, pour montrer que Dieu créateur est unique. Et c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est montré en premier lieu. Si vous essayez de trouver les attributs de Dieu comme on peut les découvrir dans l'Ancienne Alliance, c'est vraiment le Dieu créateur qui est montré en premier lieu. Et c'est cela que la théologie scientifique essaie de saisir en premier lieu. Puis à partir de la simplicité de Dieu et dans la simplicité de Dieu, le mystère de la fécondité. La double fécondité, ad intra, ad extra. La fécondité ad intra, le mystère de la Très-Sainte Trinité. La fécondité ad extra, la création. Puis le retour vers Dieu. Et comme il y a un déraillement, il faut réparer. Et cette réparation se fait par le Christ. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Et tout est repris dans une perfection nouvelle à travers Jésus. Vous voyez ? Je crois que c'est ce que nous devons comprendre dans la fête de la Toussaint. C'est que la sainteté du Christ, qui est liée au Dieu trois fois saint, c'est la sainteté même de l'Église. C'est la sainteté de Marie et de l'Église. Mais là, on touche le sommet. Alors, saint Thomas consacre une première question très délicate, très intéressante. Je crois qu'elle est très intéressante parce qu'elle est la vision de la sagesse. Et elle est peut-être, voyez, le point par lequel la théologie scientifique et la théologie de l'économie divine vont se rejoindre. C'est-à-dire que cette question première donne l'intelligence, l'éveil à toute une théologie de l'économie divine. Vous allez voir. C'est du reste des questions qui ont été très très discutées. Hein. Alors, saint Thomas montre dans une première question qui représente une première partie. Hein. Si vous regardez le prologue, ce que nous avions vu, donc je vais vite, envisageant les harmonies du mystère, nous nous demanderons premièrement, convenait-il que Dieu s'incarna ? C'est la question que nous allons voir, question première. L'incarnation est-elle nécessaire ? Oui, pardon. Les harmonies ou convenances du mystère. Deuxièmement, le mode d'union. Troisièmement, les conséquences. Alors, si vous regardez le nombre de questions, vous voyez que ce n'est pas du tout quantitatif, cette division. C'est une division purement qualitative, puisque les harmonies ou convenances du mystère, des conveniencia, c'est bien de mettre harmonie ou convenance, des conveniencia, traduisez des conveniencia. Convenance, le mot français ne dit pas assez. Harmonie, c'est pas tout à fait ça. Alors, fusionnez harmonie et convenance et vous aurez des conveniencia. Parce que c'est vrai, c'est un peu les deux. Parce que c'est vrai, le mot convenance, hein, le convenience, dites ça en anglais, c'est encore mieux, n'est-ce pas ? Alors vous verrez, hein, choquine, hein, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait quelque chose qui... Est-ce que ça peut se faire ? Alors est-ce que c'est choquant, le mystère de l'incarnation ? Pour le mystère de la très sainte Trinité ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Et c'est vrai, c'est les objections qui montrent ça. Non, non, non. Parlez pas de l'incarnation. C'est intéressant, vous savez, parce que Merleau-Ponty, donc c'est pas loin de nous, Merleau-Ponty le dit ouvertement, c'est choquant le mystère de l'incarnation. Ça va pas. Parce que quand je regarde le Christ, quand je regarde le mystère du Christ, alors je ne vois plus ce qu'est Dieu. Donc ça va plus du tout. Il vient révéler Dieu et il montre des choses qui ne sont pas Dieu. Alors ça nous déroute complètement. Et Merleau-Ponty insiste là-dessus. Il montre que le mystère de l'incarnation, ça ne va pas. C'est intéressant parce que c'est la réaction, vous voyez, d'un philosophe, d'un phénoménologue. Évidemment, il est phénoménologue, alors c'est ça qui serait intéressant de voir. Une théologie à partir d'une phénoménologie. Est-ce qu'on pourrait encore dire le déconveniencia, la convenance du mystère de l'incarnation ? Dans une perspective comme celle-là, qui est une perspective plus apologétique. Vous voyez, et c'est pour ça que déconveniencia touche le point de vue apologétique et fonde une apologétique et fonde une théologie de l'économie divine. Alors, on voit l'importance de cette première question, puisque c'est toute une première partie. Une seule question. Ensuite, nous allons tout de suite entrer avec la question 2. Si vous regardez tout de suite la question 2, vous voyez, ceci c'est pour mieux équilibrer. Hein. Il nous faut étudier maintenant de quelle manière le Verbe s'unit. À Alors là, c'est beaucoup plus long. Hein. On a toute une série de questions, tandis que là, une seule question. Et donc cette question première doit être mise un peu en dehors du reste. C'est le théologien qui essaie de s'élever dans l'ordre de la sagesse de Dieu. Selon la sagesse de Dieu, parce que c'est la convenance, c'est prise comme ça, selon la sagesse de Dieu, est-ce qu'il convenait que le mystère de l'incarnation ? Alors, premier article, convenait-il que Dieu s'incarna ? Nous avions vu rapidement, hein, alors je vois tout de suite. Convenait-il que Dieu s'incarna ? Question très importante, très générale. Alors, voyez les objections, c'est tout à fait ça. Hein. C'est choquant. Impossible pour Dieu de changer. Lui qui est éternel. Or, il descend dans le temps. C'est exactement l'objection de Merleau-Ponty. Il n'avait pas lu saint Thomas, sûrement pas. C'est exactement, parce qu'il descend dans le temps. Or, ce qui est éternel, Dieu, s'il existe, il est éternel. Or, le Christ, il est dans le temps. Donc, il n'est pas Dieu. C'est impossible. On ne peut pas faire cette espèce de fusion, cette espèce de confusion. Alors, vous voyez, comme il faut bien saisir tout ce qu'il peut y avoir là de très très fort pour un philosophe, un peu dans une perspective grecque. On aurait dit à Aristote, mystère de l'incarnation. Quand on voit ce que dit Aristote dans le livre Lambda sur Dieu. Premier moteur, qui est mu. Ça ne va plus du tout. Il a une mère. Ça ne va plus du tout. Premier moteur qui a une mère. C'est-à-dire quelque chose quand même de choquant là-dedans. De terriblement choquant. Pour le logos grec, vous voyez, pour quelqu'un qui saisit qu'est-ce que c'est que Dieu, au-delà de toute espèce de conditionnement, tout dépend de lui. Et voilà qu'il entre dans le conditionnement. Il est né à Bethléem dans ces conditions, c'est effrayant. Pour un Dieu, ça ne va pas du tout. Donc, première objection, impossible pour Dieu de changer. En gros, c'est ça. Alors, toujours les objections de saint Thomas sont mises d'une façon très formelle, mais il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière. Hein. Il descend dans le temps. Par là, il prend les... Par là, il perd les signes propres de Dieu. C'est Merleau-Ponty qui dit, il perd les signes propres de Dieu. Dieu ne peut pas se montrer, se manifester comme ça. Donc, c'est un gâchis, si vous voulez, de la part de Dieu. C'est Dieu qui vient se révéler. Si Dieu se révèle, il doit se révéler comme Dieu. Dieu, s'il se révèle, ne peut pas se révéler comme homme. Où il ne peut pas se révéler à travers l'humanité. Parce que s'il se révèle à travers l'humanité, ça ne va plus. Il y a une confusion, il y a une confusion. Dieu favorise la confusion. Il mêle toutes les cartes, hein. L'éternité et le temps. Alors, comprenez bien le témoignage de Jean-Baptiste. Hein. Celui qui était après moi est passé devant moi. C'est cette sensibilité de l'éternité et du temps. Première objection, hein. Deuxième objection, ce n'est pas sage de conjoindre ce qui est donc distant à l'infini, où il y a des distances extrêmes, on ne peut pas unir, ne faisons pas de confusion. Ça se tient. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu la même chose. On ne peut pas unir des réalités qui sont distantes à l'infini. Or, Dieu et la chair sont distinctes à l'infini. Le Verbe est devenu chair. C'est intéressant parce que tout de suite, saint Thomas, là, on sent bien, la sensibilité de saint Thomas, c'est le prologue de saint Jean. Le Verbe est devenu chair, les deux extrêmes. Alors ça, on ne peut pas. Pas possible. Dieu ne peut pas se mêler à la chair. Troisième objection, il est tout à fait inconcevable que Dieu, qui est le bien suprême, assume la malice. Or, entre le corps et l'esprit, le plus élevé, il y a la même distance qu'entre la malice et la bonté souveraine. Alors voyez là sous-jacent, hein, c'est très intéressant, le bien et le mal ne peuvent être unis, la chair, la matière est mauvaise, hein. Petite saveur néoplatonicienne, ne pas unir, c'est ça, c'est entre le corps et l'esprit, le plus élevé, il y a la même distance qu'entre la malice et la bonté souveraine. Donc, c'est toujours en opposition vis-à-vis, c'est pour ça qu'on met harmonie, vous voyez. La première, c'est vraiment la convenance par rapport à la sagesse de Dieu. Les autres, c'est le point de vue de l'ordre. Si vous voulez unir deux choses les plus extrêmes, vous supprimez l'ordre. Et en supprimant l'ordre, vous allez contre la sagesse. C'est un inconvénient que celui qui transcende, donc qui transcende les plus grandes, qui transcende tout, soit justement unis à quelque chose qui est le plus petit. Or Dieu qui prend soin du monde entier, toute l'université du monde, ne peut pas uniquement s'unir à un singulier. Donc, celui qui a un regard absolument universel, c'est l'opposition par rapport au gouvernement divin. Celui qui a un regard absolument universel, ne peut pas s'unir d'une manière particulière, d'une manière personnelle, à une réalité singulière. Ce n'est pas ça. Comme si subitement celui qui était le plus éloigné s'unissait uniquement et s'intéressait d'une façon très particulière uniquement à un singulier. C'est contraire à un gouvernement de sagesse. Alors vous avez donc quatre objections. Le point de vue du gouvernement divin, alors saint Thomas s'appuie là, hein, sur, il reprend, voici l'écrit de Volsianus à saint Augustin, que celui que l'univers ne peut contenir s'enferme dans le corps vagissant d'un enfant. Voici que le maître du monde consacre tous ses soins à une frêle créature. Ça, ça ne va pas. C'est contraire à la sagesse pratique du gouvernement divin. C'est contraire à l'harmonie, puisque ça supprime tout ordre, et puis ça brouille le temps et l'éternité. C'est des objections, encore une fois, qui ne sont pas, qu'il faut sentir. Parce que, vous voyez, nous sommes peut-être tellement habitué au point de vue de la foi à affirmer le mystère de l'incarnation que peut-être on ne ressent plus avec suffisamment de force ce qu'il y a de si extraordinaire. Et par le fait même, le scandale que ça peut provoquer, il n'y a pas que la croix qui est scandale, l'incarnation est scandale. Aussi, pour la raison humaine. C'est aussi un scandale. Je vous dis, là, je prends Merleau-Ponty parce que ça m'avait beaucoup frappé dans Merleau-Ponty, quand j'avais lu Merleau-Ponty, quand il vivait encore et qu'on était en face de cette vision qu'il avait, en disant qu'il n'était pas du tout contre Dieu, parce qu'on a traité d'athée, il n'était pas du tout. Je suis comme Socrate. C'était pas si mal de se mettre comme Socrate. Je suis comme Socrate. On m'accuse d'impiété. Alors qu'au contraire, je suis peut-être l'homme beaucoup plus religieux que tous ces chrétiens. Parce que j'ai beaucoup plus ce sens de Dieu. Eux, avec le gris, ils n'ont plus le sens de Dieu. Ils n'ont plus que le sens de l'immanence. Comme si Dieu était partout à cause de l'incarnation. Vous voyez, au fond, c'est comprendre que le mystère de l'incarnation va détraquer profondément notre sens de la transcendance. Et qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. Il faut respecter avant tout, quand on parle de Dieu, de la transcendance de Dieu. Et c'est ça qu'on doit respecter avant tout. Tout toute la grande révélation de l'Ancien Testament, c'est nous révéler la transcendance de Dieu. Or, si de fait, par l'incarnation, la transcendance de Dieu n'est pas respectée, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne peut pas être pour nous une grande révélation du mystère de Dieu. Ben, je suis dans les objections, hein, comprenez bien. Je n'y adhère pas. Mais j'essaie de comprendre ce qu'il y a de choquant. Ce n'est pas convenable. Et c'est beau de voir de la part de saint Thomas, tout de suite, hein, ne pas hésiter de prendre cela. Alors on pourrait réfléchir, parce que c'est comme toujours, quand il s'agit des objections de saint Thomas, elles sont souvent très intelligentes. Hein. Et elles sont, saint Thomas choisit. Il y en a des quantités d'autres. Il suffit de regarder dans le Contra Gentiles. Il y en a des quantités d'autres. Mais il a choisi les perles. C'est-à-dire les objections marquantes. L'objection marquante du temps et de l'éternité. L'objection marquante de la suppression de l'ordre. Puisqu'on on va unir des choses les plus extrêmes. L'objection marquante par rapport au bien et au mal. Dans toute l'éthique. C'est dangereux pour l'éthique. C'est dangereux pour la morale. Et on le sait. C'est dangereux pour la morale. On ne va plus très bien savoir ce que c'est que la morale, le bien et le mal. Parce qu'on va unir des choses qu'il faudrait mieux séparer. Vous voyez, un stoïcien. Si j'étais stoïcien, c'est pas commode un stoïcien en face du mystère de l'incarnation. Hein. La passion est mauvaise. Et voilà que Dieu qui devient passionné. Ça ne va pas. Alors l'union du bien et du mal, c'est le point de vue de la malice et de la chair. Hein. Alors ça, c'est très très dans le sens stoïcien. Vous voyez, essayez de saisir comment ces quatre objections touchent des philosophies diverses et qui toutes, regardant le mystère de Dieu, mettent quelque chose qui ne va pas. Alors le point de vue du gouvernement divin, si vous voulez vraiment gouverner et bien gouverner, vous devez respecter que celui qui est le gouvernement suprême ne s'occupe pas des détails. Il a des intermédiaires. Principe de subsidiarité, hein, aujourd'hui. Alors on dirait quatrième objection, suppression du principe de subsidiarité. C'est très ennuyeux. Ça. L'incarnation va enlever le principe de subsidiarité. Le grand chef, celui qui gouverne tout, il ne faut surtout pas qu'il s'occupe des détails. Alors, subitement, c'est ce qui se passe avec l'incarnation. Vous voyez, le désordre que ça met, c'est ça qu'il faut sentir, la secousse que ça met un désordre, des secousses apocalyptiques. C'est vrai, il vient à la fin des temps. Parce que c'est tellement quelque chose de tellement fabuleux, tellement extraordinaire, que ça ne peut engendrer que le désordre. Alors, réponse de saint Thomas, toujours essayer de comprendre hein, que... Et ça, je crois que c'est très juste quand on veut creuser un peu saint Thomas. Quand on va vite, on saute les objections. Mais ici, ça vaut la peine. Hein. Premier article, c'est quand même quelque chose de très grand. Situe exactement où, dans la sagesse de Dieu, on doit comprendre la convenance du mystère de l'incarnation. Alors, pas le fait même, l'intelligibilité qu'il peut en avoir. Parce que s'il n'y a pas de convenance, il n'y a pas d'intelligibilité. Selon les objections, pas d'intelligibilité. Alors, la foi devient ce que vous acceptez, quelque chose d'absurde. Vous dites, oui, Dieu a fait ça quand il n'y a pas pensé. Au fond, c'est quelque chose qui complètement absurde. Ou bien vous pourriez prendre la position, et c'est intéressant aussi, voir aujourd'hui, la position de Jung. C'est une position qui est très intéressante à voir parce que c'est de montrer que Dieu s'est trompé. En ce sens que, au fond, Dieu vient réparer sa faute par l'incarnation. Il vient demander pardon aux hommes. Alors, le mystère de l'incarnation est vu dans une vision tout à fait différente. Alors c'est plus le mystère de la rédemption, vous voyez, que le mystère de l'incarnation. L'objection est plus du côté de la rédemption. Il apparaît de la plus haute convenance que par les choses visibles soient manifestés les attributs invisibles de Dieu. Voilà la grande loi de l'économie divine que saint Thomas souligne ici, tout de suite. Donc c'est tout à fait sage que par les choses visibles soient dévoilées les invisibles de Dieu. Tout le monde a été fait pour cela, Romains. Donc on s'appuie et on revient à une grande lumière. Voyez bien que c'est la théologie de l'économie divine. C'est ce que je vous disais. C'est par là où la théologie scientifique et la théologie de l'économie divine vont se rencontrer. Puisqu'au fond, nous avons ici le sept contrats de saint Thomas, qui est un sept contrats tout à fait de l'économie divine. Premier épître aux Romains, premier chapitre aux Romains, verset 20. Invisibilia Dei, per ea que facta sunt, intellecta conspiciuntur. Donc c'est par les choses visibles, que nous accédons à l'invisible. Alors remarquez la phrase de saint Thomas, qui est quand même très très forte. Ad hoc enim totius mundus es factus. Hein, ça, c'est très très fort. Et c'est dans le sept contrats. Et dans le sept contrats, saint Thomas mesure ses mots. Dans le corps de l'article aussi, mais pas de la même manière. Le sept contrats est toujours un ramassis beaucoup plus fort. Et alors, c'est quand même très fort de dire ça. Ad hoc enim totius mundus es factus. C'est pour cela que tout le monde a été fait. Tout le monde a été fait pour que, par les choses visibles, les réalités invisibles soient manifestées. Et comme il y a là un aspect très important au point de vue de la connaissance. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant de montrer ça. C'est pour que les réalités invisibles soient manifestées que Dieu a voulu réaliser ce monde visible. Pour l'homme, comprenez bien, c'est pour l'homme en définitive. Alors, au-delà de tout ça, c'est parce que c'est l'homme et que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Si l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu, je comprends très bien qu'il faut que Dieu puisse se manifester à l'homme tel qu'il l'a fait. Or, il a voulu que l'esprit soit lié à la matière, et donc Dieu doit, par le fait même dans sa sagesse, réaliser tout un monde physique qui manifeste les choses invisibles. Et donc il manifeste tous ses attributs et tout ce qu'il est à travers le monde visible. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, parce que si vous isolez cette phrase hein, de tout un grand contexte de saint Thomas, vous ne comprenez pas du tout. Et vous ne pouvez pas comprendre. Or précisément, selon saint Jean Damascène, par l'incarnation est manifestée en même temps la bonté, la sagesse, la justice, la puissance. Intéressant de voir que saint Thomas s'appuie sur saint Jean Damascène ici. C'est pas étonnant. La philosophie orientale, grecque, est beaucoup plus vue dans l'économie divine, d'une façon générale. Et donc, on comprend très bien que saint Thomas s'appuie ici sur saint Jean Damascène. L'incarnation. Par l'incarnation, nous sommes manifestés à la fois. Alors, voyez l'ordre que donne saint Jean Damascène. La bonté, la sagesse, la justice, la puissance de Dieu. C'est très beau comme ordre. Je crois que saint Thomas prendra exactement le même ordre. Alors, c'est intéressant qu'au point de vue économie divine, même si dans certains points, la théologie de saint Jean Damascène et celle de saint Thomas sont très différentes, vous voyez qu'au point de vue économie divine, c'est intéressant parce que c'est le sens de la foi, l'économie divine, vous retrouvez exactement le même ordre. La première chose qui est manifestée, c'est la bonté de Dieu. Une bonté dans la sagesse. Une bonté dans la sagesse qui implique la justice et qui implique la puissance. Et la puissance vient en troisième lieu, en quatrième lieu. La bonté... car il n'a pas dédaigné épouser l'infirmité de notre propre chair. Donc il n'a pas dédaigné prendre cette infirmité. Épouser l'infirmité. Donc l'incarnation est vue tout de suite dans les termes d'une alliance de l'époux et de l'épouse. L'incarnation, c'est des épousailles, parce que c'est une union d'amour. Il n'a pas dédaigné d'épouser l'infirmité de notre propre chair. Et par là, il manifeste la bonté. La justice, puisque l'homme ayant été vaincu par le tyran du monde, Dieu a voulu que ce tyran fût à son tour vaincu par l'homme. Ça, c'est une raison constante qui revient constamment et que saint Thomas aime beaucoup et que les pères de l'Église reprennent souvent. Vous voyez, cette idée qui est très belle. Si l'homme est chef-d'œuvre de Dieu, si l'homme est aimé par Dieu d'un amour ultime et dernier, l'amour du grand-père et du père, hein, parce que Dieu est père pour les anges et grand-père pour nous, il est père et grand-père, hein, donc il y a un amour spécial, ça c'est très très net. C'est dans ce sens qu'Abraham, vous voyez, manifeste la paternité de Dieu, il est père et grand-père pour Isaac. Alors on voit très bien, je ne veux pas dire que les anges sont Ismaël, hein, je ne dis pas ça, mais c'est en père et grand-père, on voit bien cet amour spécial. Et l'homme est vaincu par une créature plus noble que lui, un ange déchu. Alors, il faut redonner à l'homme la dignité de l'homme. Autrement, l'homme gardera un complexe, hein, on dirait aujourd'hui. Il a été vaincu par une autre créature. Et pour l'homme, c'est terriblement humiliant. Et donc, il n'est pas le chef-d'œuvre de Dieu. Puisqu'il a été vaincu par une autre créature. Et donc, il faut que ce soit l'homme transformé par l'union hypostatique, l'homme assumé par le Verbe, qui soit celui qui réhabilite l'homme. Pour que l'homme soit réhabilité par l'homme. Ah, c'est une des visions les plus constantes dans l'économie divine. Elle est très, très importante, je crois, pour nous, de la comprendre. Et c'est aussi très important de comprendre ça pour comprendre la tactique du démon. Donc la justice, puisque l'homme ayant été vaincu par le tyran du monde, Dieu a voulu que ce tyran fût à son tour vaincu par l'homme. Et non par la force, il a sauvé l'homme de la mort. La sagesse, vraiment, puisqu'il trouva une solution, donc il veut dire sa sagesse, car à la situation la plus difficile, il a su donner la solution la meilleure. La situation la plus difficile, l'homme pécheur, ayant été vaincu. Il a trouvé la solution la meilleure, quelque chose qui n'est pas contenu dans la faute, hein, et qui ne peut pas être vu dans la faute. On ne peut pas, à partir de la faute, découvrir le mystère de l'incarnation. Donc, c'est la sagesse. La sagesse, puisqu'il trouva la solution la plus belle, la plus grande, à partir de la situation la plus difficile. Sa puissance, infinie enfin, car il ne peut y avoir rien de plus grand qu'un Dieu fait homme. Donc voilà la fameuse parole, vous voyez, sur laquelle saint Thomas s'appuie, c'est très important, parce que ça montre bien que dans l'économie divine, il prend deux autorités, une autorité absolument universelle pour l'économie divine, le visible doit nous faire entrer dans l'invisible. Et puis, l'autorité de saint Jean Damascène qui montre comment le mystère de l'incarnation nous dévoile la bonté, la sagesse, la justice, la puissance. Ça, il faut toujours le garder devant soi. C'est comme une grande lumière pour tout le traité de l'économie, de tout le traité de l'incarnation. Alors voilà comment saint Thomas va lui-même à la suite. Alors vous allez voir tout de suite la différence du style de saint Jean Damascène et de saint Thomas. C'est intéressant de voir tout de suite la différence. Saint Jean Damascène reste descriptif, c'est très descriptif, c'est très beau, c'est très parlant, mais c'est l'économie divine, c'est vraiment ça qu'il nous donne. Tandis que saint Thomas va nous donner tout de suite, lui, une vision très verticale et convenable pour un être tout ce qui relève de sa nature même. convenable à une réalité, ce qui relève selon la raison de sa propre nature. Bien précisé. Hein. C'est condum rationem proprie naturae. Donc ce n'est pas tout à fait suffisant de traduire qui relève de sa propre nature. Il y a une précision qui n'est pas suffisamment notée. Je crois que ça a de l'importance. Selon la raison de sa propre nature. Vous voyez, saint Thomas montre ici que la nature peut être regardée de diverses manières. Alors, il peut y avoir des convenances de la nature, mais qui ne sont pas des convenances premières. Or, il s'agit ici de montrer une convenance qui est une convenance qui relève de la sagesse. Donc, une convenance qui est selon la raison de sa propre nature. Par exemple, comme à l'homme est convenias de raisonner, eh bien, ça relève de la raison de sa propre nature. Tandis que si vous dites « il revient à l'homme de se moucher », ce n'est pas une raison de sa propre nature. Ce n'est pas la raison de sa nature. C'est une nature politique, n'est-ce pas ? C'est encore sa nature, mais c'est la nature engagée dans une communauté. Ça, c'est bien évident. Tandis qu'au contraire, raisonner n'est pas une, ça ne relève pas de la nature engagée dans une communauté. C'est deux choses différentes. La ratio naturae, hein, c'est selon la raison de la nature. C'est quand même quelque chose de très précis. Vous voyez, c'est les catotos d'Aristote. Hein. Vous connaissez tous les catotos d'Aristote. Hein. Parce que si on, c'est là où on voit combien saint Thomas et se sert, utilise le philosophe. Hein. Les catotos d'Aristote, c'est ce qu'on appelle en latin les percées, les liens de percéité, les liens essentiels. Alors il y a le lien essentiel de l'essence, de la propriété, de celui qui subsiste et de l'action. Il y en a quatre. Ça, il faut le connaître. Hein. C'est toute la structure de la connaissance scientifique. Si on n'est pas dans la structure, si on ne voit pas ces liens, on ne comprend rien du tout à la recherche de saint Thomas au point de vue scientifique. Or, il fait une théologie scientifique. Alors, je vous les mets, hein, parce que c'est une chose qu'il faut savoir. Normalement, on sait ça après sa philosophie, tu vois. Mais comme la philosophie est écrite, alors c'est quand même bon de la regarder, n'est-ce pas ? Alors, les catotos. Traduisez percer. Le percé s'oppose au peraxidens. Alors là, vous comprenez tout de suite. Hein, le peraxidens, c'est celui qui déraille toujours. Le peraxidens, c'est toujours un tout petit peu à côté. N'est-ce pas ? Tandis que le percé, c'est celui qui... Alors, traduisez en français, saisir un rapport de nécessité. Un lien de nécessité. C'est un lien de nécessité. Or, une pensée scientifique saisit des liens de nécessité. Tant que vous n'avez pas saisi un lien de nécessité, vous n'êtes pas une pensée scientifique. Aujourd'hui, on dirait une constance, parce que la science est un tout petit peu débloquée. Mais la science telle qu'Aristote apprend, c'est un lien de nécessité, c'est un rapport essentiel. Donc, c'est saisir un rapport essentiel. Un rapport essentiel, c'est un rapport qui est justement authentique. Accidentellement. Vous voyez, prenez le point de vue d'un lien accidentel, vous sortez d'ici, vous manquez la marche et vous dégringolez. Ça, c'est du peraxidens. Parce que les marches ne sont pas faites pour ça. Mais il suffit qu'il y ait un petit rien du tout pour que ça se dérape. Alors, vous dérapez, c'est accidentel. Vos souliers ne sont pas faits pour déraper. Ils sont faits pour que vous puissiez en faire adhérer. Et tout de suite, pas tous les accidents sont du peraxidens, hein, par le fait même. Et c'est toujours. Et vous excusez toujours en disant par le peraxidens. On s'excuse. Toutes les excuses, toutes les justifications, c'est du peraxidens. Alors dit votre nez tourne. Vous ne savez pas. Vous voyez, c'est pas direct. Tandis qu'au contraire, les liens, les rapports essentiels, c'est d'abord celui donc de la nature même, c'est-à-dire selon le langage de saint Thomas, la ratio naturelle. Ça, c'est très bien. Pas seulement la nature c'est encore gros, c'est la ratio naturelle. Ça, c'est tout à fait le théologien. En philosophie, on ne dira pas ça. Chercher la ratio naturelle en philosophie, mais non, la nature est un principe. Je ne vais pas la ratio naturelle. En philosophie, vous découvrez la nature, vous saisissez la nature. Ah, vous dites tout de suite nature-matière, nature-forme. Hein? Tandis que si vous prenez nature, alors vous prenez la ratio naturelle, c'est de saisir l'essence même de la chose, l'essence même de la réalité. Puis vous saisissez les propriétés. Et la ratio naturelle, ce n'est pas les propriétés. C'est quelque chose de plus radical. Il y a une réflexion sur ce qu'est la nature pour saisir ce qu'elle est premièrement, le primo percé. C'est ce qu'on dit le primo percé. Et le primo percé, c'est justement celui des sens. Celui qui définit une chose. Quand vous définissez une chose, vous exprimez ce qu'il y a d'essentiel en elle. La propriété, c'est les conséquences. Troisièmement, vous cherchez la réalité, cette réalité en tant qu'elle subsiste, en tant qu'elle a son autonomie, donc elle subsiste par elle-même. Et quatrièmement, le point de vue de l'opération. On dit ordinairement, l'architecte doit construire. Hein. Le potier réalise quelque chose. S'il ne réalise pas, il n'est pas totalement lui-même. Donc il y a un lien entre les deux. Entre la réalisation, la construction et la capacité que vous avez d'être architecte. On dira le philosophe contemple. Ça, quatrième personne, le philosophe contemple. Puisque la philosophie nous donne une capacité de contemplation. Et tant que vous ne contemplez pas, vous n'achevez pas la philosophie. Donc c'est le dernier point, c'est le point de l'opération dernière. C'est le quatrième personne. Alors vous allez me dire évidemment que l'exemple de saint Thomas, comme à l'homme est de convenir de raisonner. Ah, alors est-ce que c'est quatrième ou premier? Pour l'homme raisonner, est-ce que c'est le quatrième percé ou le premier percé? Vous pouvez discuter. Hein. Parce que cela lui convient en tant qu'il est raisonnable par sa nature. Ah, alors là, on donne la raison du premier. Il est raisonnable, c'est-à-dire qu'il a l'intelligence. L'homme sans l'intelligence n'est pas un homme. Or, l'intelligence se manifeste par le raisonnement. Et donc, on comprend cela. Donc, premier, la grande affirmation. Il est convenable à une réalité ce qui relève selon la raison de sa propre nature. Or, la bonté est la nature même de Dieu. Donc, tout ce qui appartient à la ratio boni convient à Dieu. Vous voyez, comme le raisonnement de saint Thomas va encore beaucoup plus loin que tout ce qui a été dit dans le sept contrats. Le raisonnement de saint Thomas scrute les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus connaturel à Dieu, si j'ose dire? Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu? C'est qu'il est la bonté souveraine. Ce n'est pas l'être. Non, il est la bonté souveraine. C'est ça qu'on peut dire Dieu sans l'être, hein, vous comprenez, hein, parce qu'au fond, ce qu'il y a de tout à fait propre à Dieu, c'est la bonté. Dieu est bon. Dieu est amour. C'est la bonté. Si Dieu est la bonté, et que c'est vraiment cela qui caractérise Dieu, tout ce qui se rattache à la bonté est convenience. Et plus ça se rattache à la bonté, plus c'est convenable. C'est très beau comme raisonnement. Hein, c'est pas dire les choses visibles sont là pour marginaliser. Ça, c'est l'économie. C'est l'économie divine. C'est très intéressant. C'est très très beau comme principe. Mais il y a quelque chose de plus. Là, vous passez de la théologie de l'économie divine à la théologie scientifique. La théologie scientifique ramène tout et doit tout ramener au mystère même de Dieu. Et au mystère de ce qu'est Dieu en lui-même. Dieu en lui-même, il est la bonté. Donc tout ce qui se rattache à la ratio boni est convenience à Dieu. C'est très fort. Hein, il fallait le trouver, que voulez-vous. C'est comme toujours. Si on avait dit ça à Merleau-Ponty, je vois ce qu'il aurait dit. La ratio boni, il aurait dit sans doute que la ratio boni, ça ne dit pas grand-chose. Et c'est très important. Quand on connaît un peu le traité du Deo Uno, hein, le traité de Dieu dans son unité, Donc tout à fait le début de la somme. Quand on connaît un tout petit peu le début de la somme, on sait que saint Thomas nous dit que Dieu est simple, que Dieu, sa manière d'exister, il est parfait et il est bon. Mais vous savez qu'avant d'affirmer que Dieu est bon, il y a toute une question sur la ratio de vie. Exprès. Et quand saint Thomas fait cette question sur la ratio boni, saint Thomas pense au mystère d'incarnation. C'est beau de voir là l'insertion du mystère d'incarnation dans la ratio boni. Ça s'enracine là. C'est pas la simplicité, c'est pas la perfection, c'est la bonté. C'est la bonté qui peut seule nous faire saisir comment le mystère de l'incarnation est convenable à Dieu lui-même, parce qu'il est bon. On ne dit pas la simplicité, on ne dit pas la perfection, on ne pourrait pas. Vous ne pourriez pas l'insérer là. C'est ça qui est important. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, oui, la bonté de Dieu, elle est simple, la bonté de Dieu, elle est parfaite, c'est bien évident, mais c'est la bonté. C'est par ratio boni que je vais essayer de rattacher le mystère de l'incarnation, voire l'insertion du mystère de l'incarnation dans le mystère même de Dieu. Je crois que c'est ça que veut nous faire comprendre saint Thomas. Alors à ce moment-là, c'est très grand. Parce que tout le mystère de l'incarnation nous fait entrer dans la bonté de Dieu. Et c'est comme l'éclatement du mystère de la bonté de Dieu pour nous. Alors, or, il appartient à la raison de bien. Donc la première affirmation est simple. C'est est convenable à une réalité, donc est convenience, donc...